VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Ouagadougou, 13h à Bangui. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. Au Togo, c'est aujourd'hui, jeudi 6 février, que démarre la campagne électorale pour la présidentielle du 22 février. À la veille de l'ouverture, l'effervescence n'était pas au rendez-vous dans le pays hier, comme ce fut le cas lors des précédentes courses à la présidence. Le point avec notre correspondante à Lomé, Kylie Lawson.
Enfin, les candidats peuvent aller officiellement séduire les électeurs. Officiellement, car ces derniers jours, même avant l'ouverture de la campagne électorale, certains candidats étaient déjà allés à la rencontre des populations. Les Togolais sont plus calmes que d'habitude à la veille d'une élection présidentielle. La démobilisation a eu raison des militants et sympathisants de l'opposition, estiment les analystes politiques. Du côté du pouvoir, on est à la pêche des indécis et ou des déçus. La campagne électorale s'annonce comme celle de 2015, dans un calme plat sans réels enjeux. Enjeux, bien sûr qu'il y en a. Le président sortant doit non seulement défendre ses 15 années passées à la tête du pays, mais aussi l'héritage de son feu-père, l'ancien président Nyasingbe Eyadema. L'opposition, elle, continue de caresser le rêve de l'alternance pour l'avènement d'un réel état de droit. La campagne électorale se déroule jusqu'au 20 février sur toute l'étendue du territoire national, mais aussi dans les 6 circonscriptions électorales de la diaspora, notamment aux États-Unis, en France, au Maroc, au Gabon, en RDC et au Nigeria. Kailson, Lomé, VOA Afrique.
Élection également au Burkina Faso. Le scrutin présidentiel aura lieu le 22 novembre de l'année en cours et l'élection du chef de l'État sera couplée aux législatives. C'est ce qu'a annoncé mercredi le ministre de l'administration territoriale, Siméon Sawadogo. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Les élections couplées, présidentielles et législatives, se tiendront le dimanche 22 novembre 2020. L'information a été rendue officielle par le ministre de l'administration du territoire. Le Conseil des ministres a adopté 2 décrets portant fixation de la date des élections présidentielles et législatives de 2020. Et techniquement, on appelle cela la convocation du corps électoral qui est prévue pour la date du 22 novembre 2020, a indiqué le ministre de l'administration territoriale, Siméon Sawadogo. À partir de ces 2 décrets, la CENI va travailler à la confection des listes électorales qui vaudront pour la présidentielle, pour les législatives, mais aussi pour les municipales qui vont venir en 2021, a-t-il ajouté. Ainsi donc la CENI, Commission électorale nationale indépendante, va travailler à la confection de la liste électorale, mais aussi à l'opérationnalisation de ces 2 votes sur le terrain, présidentielle et législative. C'est une date très importante et c'est une volonté du président Kabore pour qu'il y ait la clarté et la transparence dans ces élections, a rassuré Siméon Sawadogo. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Mali voisin, la fièvre hémorragique de Crimée-Congo a déjà fait 7 morts à Kera, localité du centre du pays, et 9 cas suspects ont été mis en isolement dans des structures sanitaires à Mopti, le chef-lieu régional. Selon les autorités sanitaires, des dispositions sont prises pour contenir la maladie. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Mamadou Bokoum.
La fièvre hémorragique de Crimée-Congo est apparue à Kera, dans la commune de Korombana, région de Mopti. L'information est confirmée par les autorités sanitaires. Docteur Agui Samaïga est le directeur régional de la santé.
Depuis le 1er février, on a reçu 9 cas de maladie à fièvre hémorragique qui ont quitté un village qu'on appelle Kera, dans l'aire de santé de Korianze. Immédiatement après la réception de ces 9 malades, notre équipe d'investigation s'est portée sur les lieux pour voir de quoi il s'agit. Donc nous avons fait des prélèvements que nous avons envoyés à Bamako et il s'avérait que c'est la fièvre hémorragique qu'on appelle fièvre Crimée-Congo.
C'est une maladie contagieuse et la transmission est rapide, précise le directeur régional de la santé.
C'est une transmission interhumaine. Les premiers cas qui est décédé a pu transmettre la maladie à toute cette communauté. Et tous ces malades ont été transportés et pris en charge aussi ici. Mais on déplore au niveau du village en question 5 cas de décès liés à cette maladie. Et les 9 cas qui sont venus au niveau de nos structures, il y a eu 2 décès. Mais les 2 décès ont eu un enterrement sécurisé pour ne pas contaminer les autres.
Cette maladie apparaît dans la zone au moment où l'insécurité devient de plus en plus grande, ce qui rend difficile l'accès de la zone pour une meilleure prise en charge sanitaire. Mamoudou Bokouma Mopti pour VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Est maintenant, en Tanzanie, le gouvernement a rejeté ce jeudi l'idée de réformer la Commission nationale électorale, accusée par l'opposition de ne pas être indépendante et de servir les intérêts du parti au pouvoir. La commission est indépendante et ne souffre d'aucune ingérence dans son fonctionnement, a répondu le ministre, a souligné le premier ministre Kassim Majaliwa. Rappelons que Freeman Mbowe, leader du Tchadema, principal parti d'opposition du pays, avait exhorté lundi le président John Magufuli à réformer la commission électorale pour la rendre plus indépendante en vue des élections générales prévues en octobre 2020. Consultation Soudan-Israël, le chef du Conseil souverain au pouvoir à Khartoum, le général Abdel Fattah al-Burhan, n'a pas promis au premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de normaliser les relations entre les deux pays lors de leur rencontre à Entebbe en Ouganda. C'est ce qu'ont affirmé les autorités soudanaises ce jeudi. Le gouvernement de transition a également souligné que la rencontre était une initiative individuelle du général Burhan. Abdel Fattah al-Burhan a rencontré Benjamin Netanyahou lundi à Entebbe sans l'annoncer au préalable aux autres membres du Conseil souverain, organe formé quelques mois après la destitution de l'ex-président Omar al-Béchir en avril 2019 sous la pression d'un mouvement de contestation inédit. À cette occasion, le leader israélien a dit avoir convenu avec M. Burhan d'entamer une coopération qui normalisera les relations entre les deux pays, alors que Khartoum, comme la plupart des capitales arabes, n'entretient pas de relations avec Israël. Relations États-Unis-Afrique maintenant, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo se rendra en Afrique mi-février pour son premier voyage sur le continent africain. Plus de précision avec Anne Albertson.
Les 15 et 16 février, le secrétaire d'État américain sera à Dakar pour évoquer avec le président sénégalais Macky Sall un renforcement des relations déjà fortes entre les deux pays en matière de sécurité et d'économie. Le 17 février, à Luanda, il rencontrera le président angolais João Lourenço pour réaffirmer le soutien des États-Unis aux efforts de l'Angola contre la corruption et en faveur de la démocratisation. Selon sa porte-parole, Morgan Ortagus, M. Pompeo s'entretiendra aussi avec les milieux d'affaires de ce pays pétrolier. Enfin, jusqu'au 19 février, le secrétaire d'État fera étape à Addis Abeba pour y rencontrer à la fois le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix pour son rapprochement avec l'Érythrée voisine, et Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine. Rex Tillerson, le prédécesseur de M. Pompeo, au début du mandat du président Trump, avait fait un voyage en Afrique en février 2018. Hasard du calendrier, il avait été limogé dès son retour aux États-Unis.
Actualité américaine toujours. À Washington, le procès en destitution du président Donald Trump s'est achevé sans surprise mercredi au Sénat par l'acquittement du chef de l'exécutif. Le président Trump était jugé depuis le mois dernier pour abus de pouvoir et entrave à l'enquête du Congrès. Le point avec Jean-Roger Bion.
La Chambre haute du Congrès a jugé le président non coupable d'abus de pouvoir par 52 voix contre 48, soit le reflet quasi fidèle du rapport de force entre la majorité républicaine et la minorité démocrate, Mitt Romney étant le seul républicain à se ranger du côté des démocrates. Elle a ensuite jugé le président non coupable d'entrave à l'enquête du Congrès par 53 voix contre 47, Romney rejoignant cette fois-ci son camp. Ce vote met fin à une procédure initiée cet automne par les démocrates majoritaires à la Chambre et concrétisé par la mise en accusation formelle du président américain le 18 décembre dernier en séance plénière. Donald Trump était accusé d'avoir fait pression sur son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, et conditionné le déblocage d'une aide militaire à l'ouverture par les autorités ukrainiennes d'enquête contre Joe Biden, son possible adversaire démocrate à l'élection présidentielle de novembre. L'acte d'accusation dressé par les démocrates lui reprochait en outre d'avoir fait obstacle à l'enquête du Congrès au niveau de différentes commissions de la Chambre des représentants en bloquant la transmission de documents et les témoignages de ses principaux conseillers, dont John Bolton, son ex-conseiller à la sécurité nationale. Donald Trump est le troisième président des États-Unis à faire l'objet d'un procès en destitution après Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998, tous deux ayant été aussi acquittés.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de VOA Afrique.